VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 17 mars 2017 en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
Reprise à Kinshasa des travaux sur les arrangements de l'accord de sortie de crise du 31 décembre 2016. Appel pressant du président de la CENCO.
Rencontre entre l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, et le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra.
Au Gabon, appel des syndicats aux institutions internationales pour un respect des droits des travailleurs et de l'homme dans leur pays.
L'ONU a mis en garde l'administration Trump contre une réduction abrupte de ses financements.
Rencontre aujourd'hui à la Maison-Blanche entre le président Donald Trump et la chancelière allemande Angela Merkel.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les évêques ont exhorté hier la majorité et l'opposition à cesser leur marchandage et à travailler à l'application de l'accord de co-gestion du pays et à l'organisation de la présidentielle. La finalité de l'accord du 31 décembre 2016 est l'organisation des élections pour permettre au peuple de se choisir de nouveaux dirigeants par les urnes, a martelé avec force jeudi Mgr Marcel Outembi lors de la cérémonie de relance des pourparlers. Plusieurs semaines après le décès de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Écoutons le président de la CENCO au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Distingués négociateurs, au stade où nous en sommes, nous devons aller de l'avant le plus rapidement possible. Le peuple congolais, les amis de notre pays, les hommes et femmes de bonne volonté s'interrogent sur l'avenir de l'accord politique global et inclusif que vous avez signé le 31 décembre 2016, engageant ainsi les composantes politiques et sociales que vous représentez vers la voie de sortie pacifique de la crise sociopolitique, sécuritaire et économique que connaît notre pays. Il est curieux et inadmissible de voir que les travaux de l'arrangement particulier prennent plus de temps que ceux consacrés à l'élaboration et à l'adoption de l'accord proprement dit. Il n'est pas normal que les négociateurs s'enlisent sur des questions du partage du pouvoir, oubliant ainsi que la finalité principale de l'accord consiste en l'organisation des élections dans le délai.
C'était Mgr Marcel Outembi, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, s'est entretenue hier avec le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Elle a réaffirmé le soutien des États-Unis à la Centrafrique et ce, tant que le gouvernement de Bangui reste engagé en faveur du maintien de la paix et de la démocratie et aussi de l'aide à ses citoyens. Madame Haley et le président Touadéra ont discuté, selon un communiqué, de l'engagement des États-Unis envers la MINUSCA et des moyens de rendre aussi efficace que possible la mission onusienne en RCA. La diplomate américaine a également noté la volonté des États-Unis de travailler avec la Centrafrique pour réformer son armée et développer son économie afin de permettre au peuple centrafricain de connaître enfin paix, sécurité et prospérité.
Et en République centrafricaine même, la situation humanitaire se dégrade depuis septembre 2016 en raison de la hausse des violences et des foyers de tension, a déclaré hier l'ONU qui déplore une baisse du financement de l'aide internationale. C'est ainsi que plus de 100 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés, portant leur nombre à 402 240. Selon un communiqué, le bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires, un centrafricain sur cinq est soit déplacé, soit réfugié dans les pays limitrophes, ce qui concerne près de 900 000 personnes. Les Nations Unies estiment que la Centrafrique demeure le seul pays au monde où la moitié de la population doit sa survie à l'aide humanitaire, soit 2,2 millions de personnes.
Au Gabon, des syndicats ont demandé à plusieurs institutions internationales d'exercer des pressions sur les autorités de Libreville pour faire respecter les droits des travailleurs et les droits de l'homme. C'est ce qui ressort d'un communiqué reçu hier. Les précisions de John Linden.
Proche de l'opposition, la Confédération syndicale dynamique unitaire dénonce des grèves réprimées par les forces de l'ordre, notamment l'intervention policière fin février contre les grévistes de l'entreprise pétrolière Morel et Prom, ou la suspension par le gouvernement des salaires de 807 enseignants grévistes de l'enseignement public. Elle appelle ces institutions, dont l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation internationale du travail, à exercer des pressions multiformes, voire à porter plainte contre le gouvernement gabonais pour faire respecter les droits des travailleurs, les droits de l'homme, l'état de droit et les valeurs démocratiques. Le communiqué des dynamiques unitaires intervient une dizaine de jours avant le lancement du dialogue politique proposé par M. Bongo après sa réélection en août face à son rival Jean Ping, qui conteste toujours le résultat de la présidentielle et qui a annoncé qu'il boycotterait ce forum.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
L'ONU a mis en garde hier l'administration Trump contre une réduction abrupte de ses financements. Un projet de budget dévoilé prévoit en effet de réduire la contribution des États-Unis à des missions des Nations Unies. Eric Manirakiza.
Washington ne participerait pas à plus de 25% des coûts des opérations de maintien de la paix. Cette baisse drastique des ressources allouées à l'ONU risque d'entraîner l'adoption de mesures qui saperont l'impact à long terme des efforts de réforme et de l'organisation, a averti Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. Pour l'ambassadeur français à l'ONU, le retrait et l'unilatéralisme de l'Amérique conduiraient à l'instabilité de l'ordre mondial. François Delattre a estimé que l'on a plus que jamais besoin d'une ONU forte et d'une Amérique qui demeure engagée dans les affaires du monde. Antonio Guterres tente l'auto pour l'auto pour dissuader la nouvelle administration de Washington. Il se tient prêt à discuter avec les États-Unis et avec tout autre État membre pour convenir la meilleure manière de créer une organisation plus rentable en vue de poursuivre les objectifs communs.
Le président Trump et la chancelière allemande Angela Merkel vont se rencontrer ce vendredi à la Maison-Blanche pour leur premier face-à-face. L'enjeu est de taille compte tenu des déclarations du candidat Trump l'an dernier sur l'OTAN et les relations transatlantiques. Gabi Dorsil pour des précisions.
Les différences sont évidentes. Donald Trump prône l'Amérique d'abord. Angela Merkel défend le libre-échange. Ils n'ont pas toujours dit du bien l'un de l'autre. On se souvient de cette accusation de Donald Trump durant la campagne électorale.
J'étais autrefois un fan de Merkel. Je croyais qu'elle était un leader fantastique. Je pense maintenant que ce qu'elle a fait à l'Allemagne est une disgrâce.
La chancelière non plus n'a pas été tendre en décrivant le décret de Donald Trump sur l'immigration, par exemple. Aujourd'hui, les deux leaders sont obligés de joindre leurs forces pour faire face aux questions les plus urgentes de l'heure, d'où le nouveau ton conciliant de Mme Merkel.
Je suis profondément convaincu que nous avons intérêt à entretenir un partenariat transatlantique fondé sur des valeurs communes. Et c'est vrai, pas seulement pour les Européens. Mes entretiens avec le président Donald Trump se dérouleront dans cet esprit.
Autant donc s'attendre à un temps de compromis aujourd'hui à la Maison-Blanche sur la viabilité de l'OTAN, par exemple, que Trump a qualifié de surannée, et aussi sur le commerce. Néanmoins, les Européens veulent être pris en bloc, alors que Trump privilégie les accords bilatéraux.
Et toujours à Washington, les dirigeants de la commission du renseignement du Sénat ont affirmé hier qu'aucune preuve n'avait été établie sur d'éventuelles écoutes dans la Trump Tower. Cette déclaration fait suite aux accusations du président Trump selon lesquelles l'administration Obama aurait ordonné ses écoutes pendant la campagne présidentielle. Des détails avec Jacques Aristide.
Ce sont le républicain Richard Burr, président de la commission sénatoriale du renseignement, et son adjoint démocrate Mark Warren qui l'écrivent dans un communiqué. D'après eux, compte tenu des informations à leur disposition, il n'y a aucune indication que la Trump Tower a été l'objet d'une surveillance de la part de quelconque élément du gouvernement américain avant ou après l'élection de 2016. Dès mercredi, Devin Nunes, qui lui dirige la commission du renseignement de la Chambre des représentants, avait affirmé ne pas disposer d'éléments accrédités citant les accusations formulées par Donald Trump sur son compte Twitter le 4 mars dernier. Dans le message, le chef de l'exécutif américain affirmait que Barack Obama avait ordonné sa mise sur écoute, ce qu'a démenti l'ex-président. Le directeur du FBI, James Comey, sera interrogé sur ce sujet lundi prochain par les parlementaires américains.
Les États-Unis et la Chine mettent la dernière main à un projet de sommet entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping en avril à Mar-a-Lago, la luxueuse résidence de M. Trump en Floride. Parmi les derniers obstacles, il y a notamment, selon l'AFP, la façon d'aborder certains problèmes comme la Corée du Nord et ses tirs de missiles et de tests et tests nucléaires. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est attendu demain à Pékin.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Des grands noms de l'industrie du cacao ont annoncé hier à Londres leur intention de s'accorder sur un plan d'action pour lutter contre la déforestation. Nestlé, Ferrero, Mars et Semois se sont engagés à travailler avec le secteur public en Côte d'Ivoire et au Ghana pour lutter contre la déforestation. En Côte d'Ivoire, la forêt, qui représentait 78% du territoire national à l'indépendance en 1960, ne recouvre plus que 13% des terres. Les détails de ce plan seront donnés lors de la COP23 en novembre prochain. Le Parlement européen a donné son accord final à une nouvelle réglementation sur les minerais de sang qui ont contribué à financer certains conflits armés en Afrique. Cette réglementation, qui entrera en vigueur en janvier 2021, sera contraignante pour les entreprises importatrices de l'Union européenne qui se trouvent au début de la chaîne de production, y compris les fonderies et les raffineries. Elles devront s'assurer et garantir qu'il n'y a pas de lien entre leur chaîne d'approvisionnement et les conflits armés. L'opérateur de télécommunications Orange s'installe au Burkina. Le lancement de cette marque au Faso intervient moins d'un an après la finalisation de l'acquisition d'Airtel par le groupe, conjointement avec Orange Côte d'Ivoire, et démontre les ambitions d'Orange sur le marché de l'Afrique de l'Ouest.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
On commence par cette suspension du Mali par la FIFA.
Oui, la Fédération internationale a suspendu la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football, estimant que le pouvoir politique a fait preuve d'ingérence en limogeant ses dirigeants le 8 mars dernier. Avec cette suspension, la FEMAFOOT perd tous ses droits de membre, souligne la FIFA dans un communiqué. Cela signifie aussi qu'aucune des équipes représentatives et aucun des clubs affiliés de la FEMAFOOT ne sont désormais en droit de prendre part aux compétitions internationales, précise le communiqué. Et puis cette décision implique également que la FEMAFOOT et ses membres ne peuvent plus bénéficier des programmes de développement de la FIFA ou de la CAF. La suspension ne sera levée que lorsque les décisions ministérielles auront été annulées et que le comité exécutif de la FIFA aura été réinstallé, conclut le communiqué de la FIFA. Il faut dire que le ministère des Sports du Mali avait justifié la dissolution du comité exécutif de la FEMAFOOT dirigé par le général de police Boubacar Baba Diarra en raison, je cite, de la persistance de la crise au sein du football.
Depuis hier, la CAF a un nouveau président.
Et oui, qui l'eût cru, le Camerounais à la tête de l'instance africaine de football depuis 29 ans a été enfin battu lors des élections. C'est le malgache Ahmad Ahmad qui a été élu hier à la surprise générale. Issa Yatoué, il faut le dire, dirigeait l'organisation depuis 1988.
Quelques résultats des matchs de la Ligue Europa joués hier soir.
Oui, les Français de Lyon sont tombés en déplacement à Rome 1-2 face à l'AS Rome. Mais Lyon est qualifié pour le tour suivant en raison de son 4-2 lors du match aller. Qualification aussi des Anglais de Manchester United face aux Russes du FC Rostov. Anderlecht a eu raison d'Apoel Nicosie 1-0, 2 buts partout entre le Borussia Mönchengladbach et le Schalke 04, deux clubs allemands. Et c'est Schalke qui s'est qualifié. Ajax d'Amsterdam a aussi obtenu son ticket grâce à ce 2-0 contre FC Copenhague avec un but du Burkinabé Bertrand Traoré. Large victoire pour les Turcs du Beşiktaş face aux Grecs de l'Olympiakos 4-1. Le Racing Genk s'est qualifié en concédant un nul, un but partout. Victoire à l'aller 5-2. Et puis enfin, qualification du Celta Vigo face aux Russes du FC Krasnodar, battu 2-0. Et puis avec vous, Idrissa, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Utah et Cleveland 83-91. Oklahoma City et Toronto 123-102, Brooklyn Nets et New York Knicks, 121 et 110. Memphis et Atlanta, 103-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Fin de séjour aux États-Unis pour une délégation de la société civile congolaise au programme Rencontre aux Nations Unies à New York et ici à Washington. Au cours des échanges, la délégation a alerté sur les violations des droits de l'homme et politiques que traverse la RDC. De passage dans la capitale américaine et au micro de Nicolas Pinault, écoutons Jean-Claude Katende, président de l'ASADU, l'Association africaine des droits de l'homme.
La situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, elle est catastrophique. Et nous avons là des éléments objectifs. Le premier élément objectif, c'est le fait qu'au jour d'aujourd'hui, les manifestations publiques sur l'ensemble de la République démocratique du Congo sont interdites en violation de la Constitution. De deux, la liberté d'expression existe dans la Constitution, mais dans la pratique, vous allez voir que soit ceux qui veulent intervenir sur certaines questions sensibles s'autocensurent eux-mêmes, parce que à tout moment, il est possible qu'on vous arrête par les services de sécurité ou par la police parce que vous êtes allé à l'encontre des vues du régime en place. Et ici, je voudrais aussi souligner ce qui se passe dans le Kasaï, où plusieurs populations civiles ont été tuées par les éléments des FRDC et vous avez plusieurs fosses communes pour lesquelles nous demandons, parce que nous n'avons pas confiance, qu'une enquête indépendante soit organisée.
Aujourd'hui, les autorités de Kinshasa concernant la situation au Kasaï parlent finalement d'assurer le maintien de l'ordre et parlent de lutte contre des groupes qui menacent la sécurité du territoire. Que répondez-vous ?
Vous allez vous rendre compte qu'on a affaire à des jeunes, à des femmes, à des hommes qui ne sont armés que des bâtons, qui ne sont armés que des lance-pierres. Et ce qui est plus grave dans cette vidéo, c'est qu'on est en train d'achever même les personnes sur lesquelles on avait déjà tiré. Et ce qui est plus grave, c'est que les militaires qui sont dans cette vidéo insultent même les cadavres. C'est pour vous montrer les degrés de méchanceté, d'atrocité utilisés par les éléments qui sont déployés sur terrain. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas dire que nous avons affaire à une milice.
Le collectif auquel vous appartenez n'était pas favorable au dialogue actuel. Il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Et on ne votera certainement pas d'ici la fin de l'année 2017 en République démocratique du Congo. Vous parlez de gâchis.
C'est malheureux que la majorité au pouvoir en République démocratique du Congo aujourd'hui bloque la mise en œuvre du dialogue. En 2017, nous pensons que c'est une date irrévocable. Si les politiciens veulent trouver leur combine pour aller au-delà de ce qui est inscrit dans l'accord du 31 décembre, il faut qu'ils se rappellent que la population est très attachée à cet accord. Parce que n'eût été cet accord, je pense qu'on aurait parlé d'autre chose en République démocratique du Congo. Notamment, on aurait parlé d'une révolution en République démocratique du Congo.
C'était Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, l'Association africaine des droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La société Énergie du Mali a engagé des mesures énergiques contre les mauvais payeurs de factures d'électricité qui ne sont pas forcément les plus pauvres, nous dit notre correspondant. C'est ainsi que départements ministériels, Assemblée nationale et autres organismes d'État ont été privés d'électricité. Cela fait 3 ans que ces institutions ne paient pas leurs factures, ce qui représente des centaines de millions de francs CFA, déplore la société EDMSA. De Bamako, reportage de Kassim Traoré.
La société Énergie du Mali va en guerre contre ceux qui ne payent pas les factures d'électricité. Dans cette lutte, la société a commencé par priver certains gros clients d'électricité, surtout les institutions de la République, les départements ministériels et les directions nationales. Denis Koné, journaliste au quotidien de Djamana.
Ah, mais c'est une situation qui est anormale. L'État, en tant que tel, comme les individus, doit s'acquitter régulièrement de ses dettes, de ses factures. En Afrique, ce sont des choses qui se passent comme ça. Mais je pense que normalement, les services étatiques, comme c'est des services étatiques à services étatiques, bon, c'est ce qui fait qu'effectivement, il n'arrive pas à le... Mais de toute façon, c'est une situation anormale. Il faut qu'à chaque fin de mois, que les institutions de la République s'acquittent normalement de leurs factures d'électricité, d'eau et puis tout le reste, tout comme les simples citoyens.
L'Assemblée nationale fait partie des mauvais payeurs, car il y a de cela 3 ans que cette institution n'est pas en règle. Au moment de notre passage au niveau de l'Assemblée, certains députés nous ont fait savoir que la situation a été régularisée. Voici la réaction d'un travailleur qui a requis l'anonymat.
Si je ne me trompe pas, si l'Assemblée doit faire donc des poursuites concernant quelqu'un, il les fait, non? Il les fait. Mais en quoi cela dispense donc l'Assemblée donc de ne pas payer ses factures? Moi, je pense que l'UDEM a bel et bien le droit donc de réclamer. C'est une institution de l'État, non? Et dans ce cas donc, l'Assemblée aussi c'est pour l'État. Comment se fait-il qu'un service puisse faire entrer de l'argent chez l'État et un autre ne le fait pas? Mais c'est pas possible. Il est temps que les choses ça change. Si ça ne tenait qu'à moi-même, il va remplacer ces compteurs la part des compteurs prépayés. Comme ça, donc, on va voir ce qui va se passer. Si tu ne payes pas, tu n'as pas d'électricité. Dans ce cas, moi, je pense que la solution est là. Hein.
Ce sont des centaines de millions de francs CFA que des mauvais payeurs doivent à la société Énergie du Mali. D'où la colère des petits clients.
Je m'appelle Dino Bocares. Pour moi, mon avis sur ça, il faut les couper le courant. Parce qu'ils représentent la population. Ces gens-là, on dit qu'ils ne payent pas le courant. Il faut les couper dans l'immédiat et qu'ils interviennent dans l'immédiat. La population lambda, nous, on n'a pas droit au crédit de l'énergie et que et les représentants de la population, ils ne payent pas leur courant d'un pays. On doit leur couper le courant.
Cette situation des factures impayées au niveau des institutions et départements ministériels du Mali peut être traduite comme une faille de la gestion des affaires actuelles du pays. C'est ce que nous explique le journaliste Denis Koné.
Bon, il faut dire que les affaires sont vraiment mal gérées. Ce ne sont même pas seulement dans le domaine de l'électricité, mais il faut dire aussi dans les autres domaines. C'est vraiment une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance, c'est tout. L'État aussi doit s'acquitter normalement de ses factures. Vous voyez, c'est ce qui met également l'EDM dans le pétrin. Bon, vous parlez des factures de 100 millions. 100 millions, c'est trop. 100 millions dans la caisse de l'EDM, ça peut aider l'EDM à réparer certaines installations.
À la société Énergie du Mali, la direction ne veut pas se prononcer sur cette opération, car des agents sont toujours sur le terrain. Après les avertissements, ils doivent aussi enlever le compteur des mauvais payeurs. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La nouvelle a secoué le monde du football africain. Hier, en effet, le Camerounais Issa Hayatou a été battu aux élections pour la présidence de la CAF, la Confédération africaine de football qu'il dirigeait depuis 1988. Le malgache Ahmad Ahmad a été élu à la surprise générale à sa place. Bagassi Koura a joint à Londres, en Angleterre, le consultant Emmanuel Maradas.
On s'attendait à ce que Issa Hayatou rempile. Les enjeux sont là et puis les jeunes fédérations qui sont au pouvoir en ce moment en Afrique trouvent qu'après plusieurs années à la tête de la Fédération africaine de football, Issa Hayatou devrait céder sa place à quelqu'un de jeune, à quelqu'un qui serait peut-être beaucoup plus proche de leur attentement, et c'est peut-être ça qui a peut-être milité pour le succès de son opposant, le malgache Ahmad Ahmad. Ça a été une surprise, c'est vrai, mais une surprise pour ceux qui connaissent le football, pour ceux qui connaissent la politique du football africain. Ce serait peut-être pas une surprise vu ce qui s'est passé à Zurich en 2015 avec l'arrivée au pouvoir de M. Gianni Infantino. Donc, il avait soutenu son adversaire et là, dire qu'il a soutenu peut-être son opposant, il manque peut-être un petit pas à franchir.
Alors, vous avez parlé de la politique du football africain. C'est une politique dont Issa Hayatou était le maître.
Mais tout à fait. Issa, à son arrivée en 1988 à la tête de la Confédération africaine, il a instauré une politique de clientélisme autour de lui. Et aujourd'hui, il a payé un peu à cause de cette politique qu'il a instaurée autour de lui. Néanmoins, tout au long de ses mandats, Issa a fait des très bonnes choses pour le continent africain. Grâce à lui, nous avons pu organiser la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010.
Oui.
Grâce à lui, l'Afrique a pu obtenir les 5 places pour la participation aux Coupes du Monde. Et grâce peut-être à lui aussi, aujourd'hui, on aura plusieurs représentants africains au niveau du comité exécutif de la FIFA.
Est-ce que il va falloir penser à des réformes de la CAF pour éviter une telle longévité dans le futur?
Mais écoutez, on a déjà, la FIFA a déjà instauré cette limitation de nombre de mandats. On parle aujourd'hui de 3 mandats au lieu de nombre de mandats illimités, comme ce fut le cas pour Issaïtou de 88 à aujourd'hui. Donc, son successeur, s'il a un peu de chance, il va peut-être briguer 3 mandats. S'il n'en a pas, bon, 3 mandats suffiraient largement de faire des bonnes choses.
Notre vieil ami Emmanuel Maradas.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, nouveau revers pour le président Donald Trump, dont le décret migratoire révisé n'a pas pu entrer en vigueur jeudi, après avoir été bloqué par des juges fédéraux des États de Hawaï et du Maryland. Le chef de l'exécutif américain se dit victime de décisions politiques de la part de la justice. Timothée Donangmai a recueilli l'analyse du professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University, ici à Washington.
La raison principale qu'ils ont utilisée, c'est pratiquement le discours de Trump pendant sa campagne. Trump dit toujours, naturellement ses assesseurs, ses conseillers, ses ministres, qu'il va réaliser les promesses qu'il a faites pendant la campagne. Ça signifie qu'on peut dire, si vous avez promis quelque chose pendant la campagne, c'est votre pensée, c'est votre plan, c'est votre décision. Et c'est clair que durant la campagne, Trump a parlé d'empêcher, s'il pouvait complètement, l'entrée dans le pays des personnes de foi musulmane. Et c'est ça pratiquement que les juges ont utilisé, entre autres choses, pour dire que l'ordre n'est pas un ordre qui respecte la Constitution, où il y a la prohibition de distinguer entre une foi et une autre, qu'elle est vraiment et clairement orientée sur une cible. Et cette cible sont les musulmans.
Le président Trump dit que c'est des décisions politiques qui empiètent sur son droit en tant que président de prendre des décisions concernant l'immigration.
Le président a vraiment beaucoup de pouvoir, délégué en partie par le Congrès, de décider sur des questions d'immigration, comme dans tous les pays. Enfin, mais il n'y a pas seulement cette loi qui lui donne ce pouvoir. Il y a aussi, dans la base, la Constitution. Et la Constitution prohibe clairement favoriser une religion vers une autre ou défavoriser une religion vers une autre. Et quand le président, comme candidat à la présidence, a parlé même de ne pas permettre l'immigration islamiste dans le pays, il a clairement ouvert la porte de cette accusation. Et c'est ça l'argument principal maintenant, que les juges ont accepté, que c'est une violation de l'ordre constitutionnel, parce que quoi que l'ordre ne parle pas plus de ça, comme le premier, c'est quelque chose qui provient de sa campagne. Et parce qu'il parle toujours de réaliser les promesses qu'il a faites pendant la campagne, parce qu'il dit ce que le peuple américain veut, alors ça peut être référé en arrière à ses promesses, c'est-à-dire qu'il est un ordre qui veut empêcher l'entrée des musulmans. Et pour ça, il n'est pas constitutionnel.
C'était le professeur Emilio Viano, enseignant de sciences politiques à American University, ici à Washington.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons des faux médicaments.
Nous nous rendrons en République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa, où 40% des médicaments en circulation sont de mauvaise qualité, selon une étude du ministère de la Santé.
Pour en parler, nous recevons comme invité M. Tumbuna Etienne, le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens. Il nous dira comment et pourquoi les faux médicaments circulent en RDC.
Nous écouterons le témoignage de Daniel Ngeleka, directeur de la pharmacie et du médicament. Nous expliquera la stratégie du gouvernement contre ces faux médicaments.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.